La science CQFD, Natacha Triou.
De récents travaux montrent que les plantes sont sensibles aux stimuli sonores. Nous n'avons pas d'explication du pourquoi, du comment, mais quelles sont les hypothèses et quel est le rôle du son dans le monde végétal ? Historiquement, ce n'est pas nouveau. Dès l'invention du gramophone, on a tenté d'étudier l'effet du son sur les plantes. Mais la bioacoustique végétale, cette jeune pousse disciplinaire, connaît un tournant depuis une dizaine d'années. Avec des travaux qui montrent que certaines fleurs réagissent au son des abeilles, d'autres au bruit de mastication de chenilles. Et on découvre tout juste que les tomates produisent des ultrasons en cas de stress. On ne sait pas pourquoi les plantes font ça, mais tendons l'oreille. Bioacoustique végétale, pas si dur de la feuille. Et en duplex de France Bleu Grenoble, bonjour Philippe Marmottan.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire interdisciplinaire de physique de l'université Grenoble-Alpes. Et nous sommes en ligne avec Adeline Barbassi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biomécanicien spécialiste de l'immunité des plantes au laboratoire des interactions plantes-microbes-environnement de Toulouse et le co-auteur du dossier sur le son et les plantes de la revue Pour la Science. Merci à vous tous d'être avec nous en direct jusqu'à 17h sur France Culture. Vous pouvez nous suivre également sur Twitter, sur X pour notre live tweet. Il commence tout de suite sur notre fil @sciencecqfd. Avant de tendre nos micros et nos oreilles aux plantes vertes, on poursuit cette folle semaine de prix Nobel avec vous, Antoine Beauchamp. Bonjour.
Bonjour Natacha, bonjour à toutes, bonjour. Bonjour à tous.
Alors, les lauréats du prix Nobel de physique 2024 sont connus depuis ce midi. Le prix vient récompenser des travaux dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Oui, il vient récompenser deux pionniers dans l'histoire de l'IA, l'américain John Hopfield et le britanno-canadien Geoffrey Hinton, qui est souvent considéré comme l'un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, on se réfère le plus souvent à l'apprentissage machine qui repose sur des réseaux de neurones artificiels. C'est sur ces réseaux de neurones artificiels inspirés du cerveau humain que travaillent nos deux lauréats depuis les années 1980. John Hopfield a développé un réseau de neurones inspiré d'un phénomène physique, le spin, pour le dire très très vite, un phénomène magnétique, pour sauvegarder et recréer des motifs. Quant à Geoffrey Hinton, il est parti des travaux de Hopfield pour utiliser une autre méthode relevant de la physique statistique pour améliorer les performances de l'apprentissage machine. Si ces travaux pionniers qui ont lancé l'intelligence artificielle moderne ont pu être devancés pendant un temps par les développements technologiques, on y revient de plus en plus du fait de leur efficacité énergétique. C'est ce que nous explique la physicienne Julie Grolier, directrice de recherche CNRS au laboratoire Albert Fert.
Les travaux initiaux de Hopfield et de Hinton ont été de proposer des modèles de l'apprentissage, c'est-à-dire de dire de manière simple comment est-ce qu'un système physique pouvait apprendre. Et donc ça a été une première impulsion, c'est-à-dire des premiers modèles voilà, qui ont été posés. Et ça a créé toute une dynamique qui a ensuite lancé aujourd'hui l'intelligence artificielle moderne. Alors ces modèles, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont été très utilisés au début, puis il y a des avancées qui ont été plus loin, et donc ils ont été laissés un peu de côté. Et puis en fait aujourd'hui, de nouveaux développements, vraiment sur la base de ces modèles, ont montré toute leur puissance, c'est-à-dire qu'ils redeviennent à la mode et pourront peut-être remplacer les modèles actuels. Ça permet d'entrevoir comment on pourrait faire apprendre à un système physique avec très peu d'énergie. L'ordinateur ne ressemble pas du tout sa structure à un réseau de neurones. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le coût énergétique de l'intelligence artificielle est assez faramineux. Vous savez peut-être que Microsoft vient de relancer une centrale nucléaire qui était arrêtée pour pouvoir alimenter ces centres de données. En faisant un apprentissage qui serait beaucoup plus proche de la physique, avec des matériaux justement magnétiques, par exemple, c'est ce sur quoi je travaille, on pourrait diminuer le coût énergétique de l'intelligence artificielle d'un facteur 100 à 1000 et l'accélérer également par le même facteur. Donc c'est des enjeux assez considérables et les modèles de Hopfield et de Hinton sont des points de départ extrêmement intéressants que beaucoup de personnes poursuivent aujourd'hui.
Merci Antoine Beauchamp. On vous retrouve demain pour l'annonce des prix Nobel de chimie 2024. Pour en savoir plus sur le machine learning, rendez-vous demain matin à 6h52 pour la chronique Avec Science d'Alexandra Delbo. On commence donc cette discussion sur la bioacoustique végétale. Quelles sont les capacités des plantes à percevoir des sons et des ondes sonores, mais aussi quelles sont leurs capacités à en émettre? Quel est l'impact des ondes sonores sur le monde végétal? Nous sommes ensemble tout au long de cette heure pour en discuter. Surtout, les tulipes sont-elles sensibles à la musique? La question est posée en 1976, c'est notre archive du jour.
Alors, il y a quelques exemples scientifiques. Par exemple, dans les laboratoires parfaitement sérieux et compétents de l'université de Berkeley, on avait soumis des tulipes à l'action des sons. Et alors, on avait remarqué que les tulipes auxquelles on avait fait entendre des enregistrements de musique, qui étaient déterminés d'une façon purement empirique, parce qu'on ne sait pas, évidemment, pas quelle musique aiment les tulipes. Enfin, on a essayé différentes choses, et on a remarqué qu'elles fleurissaient beaucoup plus vite et dans de meilleures conditions que les mêmes tulipes abandonnées dans des serres silencieuses, par exemple. Les soviétiques ont fait des expériences équivalentes, et ils ont remarqué que dans les plantations de tubéreuses, la proximité de sons incommodants, comme par exemple les sons d'appareils d'humidification, le vrombissement des ventilateurs, le bruit des pompes, empêchait vraiment les plantes de pousser. Et eux aussi ont effectué un certain nombre d'expériences sur la relation entre la musique et les plantes.
La voix de Jean-Michel Damian en 1976 sur France Musique. De la Marbassi, on ne sait pas quelle musique aime les tulipes. En tout cas, l'effet du son sur les plantes, ça historiquement, ça remonte à loin.
Oui, ça remonte vraiment à partir du moment où on a pu facilement mettre de la musique, baigner les plantes d'un environnement musical. Tout le monde s'y a un peu essayé. Enfin, tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est que le grand public s'est assez vite emparé de la question. Et c'est un sujet qui, initialement, a la particularité de pas vraiment commencer à initier par des scientifiques. Alors, c'est un peu le contre-exemple, là, qui est dans l'archive sonore, mais ça a commencé bien avant. Et ce qui fait que c'est un sujet qui est né en dehors de la science. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de le rapatrier dans les sciences, c'est-à-dire de développer des approches, parce que maintenant c'est à peu près clair que oui, il y a bien bel et bien un effet du son sur les plantes, mais il y a encore, si vous voulez, autour de ces idées publiées, démontrées, beaucoup de choses qui gravitent et qui, en fait, sont un peu des reliquats de cette question qui a passionné les gens, mais vraiment depuis le début. Et j'avoue, pour une raison qui m'échappe un peu, pourquoi cette question-là passionne tout le monde et vraiment, c'est une constante. Hein. Ça fait un siècle que les gens s'intéressent à l'effet du son sur les plantes.
Philippe Marmottan, en effet, notre archive date de 76. Adelin Barbassi évoquait à l'instant le fait que ce soit un sujet très grand public. Au début des années 70, on a un livre, La vie secrète des plantes, qui est devenu un best-seller mondial. Et dans ce livre, il est dit que les plantes seraient réceptives à la musique.
Alors oui, il y a beaucoup d'études qui ont montré que les plantes pouvaient entendre des sons. Et donc, historiquement, c'était la mode des années 60 d'envoyer des musiques un peu particulières pour favoriser la croissance des plantes. Donc Adelin pourra compléter là-dessus. Mais on était à composer des musiques qui seraient plus efficaces que d'autres pour faire pousser les plantes. Et donc il y a eu toute cette mode de composition, en fait, qui était destinée à accroître le rendement ou la vitesse de croissance des plantes. Et c'est seulement après que les scientifiques se sont emparés du sujet en faisant des expériences beaucoup plus contrôlées, puisque là, on n'était plus dans juste la musique, mais aussi dans la mesure de vitesse de croissance des plantes.
Adelin Barbassi, justement, sur ces expériences pionnières.
Oui, alors c'est vrai que dans les années 70, ça a beaucoup résonné, mais entre autres parce qu'il y a eu, une liberté pour envisager les relations entre les plantes et puis les êtres humains un peu qui s'est un peu libéré dans les têtes, et donc il y a eu beaucoup d'approches un peu New Age autour de cette question-là. Et qui perdure encore un peu aujourd'hui, mais ça a vraiment, dans les années 70, il y a eu quand même une grande diffusion de ça. Et on peut se rappeler que il y a même eu qui existe toujours, d'ailleurs, un album donc qui a été créé par Mort Garson, qui s'appelle Une musique chaleureuse pour les plantes et les gens qui les aiment, qui a été produit puis qui était offert pour les gens qui achetaient une plante ou alors un matelas. Alors on ne sait pas trop pourquoi un matelas, mais en tout cas, c'était offert aux gens pour que leurs plantes poussent mieux. Et alors c'est rigolo parce que, c'est de la musique électronique, tout à fait écoutable par les êtres humains, et qui est devenu un petit peu un passage obligé hein, pour les gens qui s'intéressent un peu en amateur aux sons et aux plantes sur YouTube. Et c'est un album qui est assez écouté. On en pourra juger la qualité en écoutant ces titres.
Eh bien justement, on l'écoutera tout à l'heure, Mort Garson, Adelin Barbassi. En parallèle, Philippe Marmottan, à cette époque des années, dans les années 60, au début, on a aussi tenté de capturer le son des plantes.
Oui, alors la première expérience date de 1966. C'est un chercheur américain qui a eu l'idée de poser la pointe d'une aiguille de lecture de tourne-disque. Donc c'est une partie très sensible pour mesurer des sons. Donc en posant cette aiguille directement sur le pétiole d'une feuille, alors le pétiole c'est la petite queue qui attache la feuille à la plante, ils ont remarqué qu'on pouvait entendre des clics, donc des clics dans le domaine audible, et qui se produisaient lorsque la plante est en train de sécher. Donc ça c'était le début de beaucoup de recherches qui cherchaient à un petit peu observer l'état de stress hydrique de ces plantes en écoutant ce qui se passe. Donc ça c'est la première étude. Ensuite, il y a eu des études dans les années 80, donc c'était plus tard, où on a découvert que non seulement elles émettaient des sons, mais aussi des ultrasons. Donc là, la technique, c'était de mettre un capteur d'ultrasons, mais alors directement collé sur la plante, parce que les ultrasons se propagent pas très bien dans l'air. Et donc, c'est cette équipe américaine qui a essayé sur du thuya, et aussi sur du maïs en plein champ, et a remarqué que lors des épisodes de sécheresse, le thuya et le maïs émettaient des clics, non pas dans le domaine sonore, mais dans le domaine ultrasonore. Le domaine ultrasonore, juste pour rappel, c'est des fréquences au-dessus de 20 000 Hz, qui sont normalement pas audibles par les humains, mais qui sont audibles par d'autres animaux. Donc ça dépend un petit peu aussi de chacun. Moi, par exemple, j'arrive à entendre jusqu'à 13 000 Hz. On peut se tester comme ça, mais donc 20 000 Hz, c'est sûr qu'aucun humain ne peut les entendre. Et pourtant, il y a ces émissions de sons par les plantes quand elles sont en état de sécheresse.
Mais alors, Adelin Barbassi, à partir de quand la bioacoustique est devenue sérieusement considérée en biologie? Il y a eu un tournant quand même en 2014.
Oui, c'est vrai que... il y a eu des, enfin, par rapport un peu à ce que disait Philippe, il y a eu cette partie émission qui, pour le coup, est quand même restée dans les sciences. Hein. Il y a toujours eu des gens qui ont utilisé des capteurs ultrasons pour en fait étudier beaucoup de phénomènes biologiques. Alors ça, Philippe pourra vous en parler mieux que moi. Et il y a plutôt le côté perception hein, qui était plutôt douteux et on avait du mal un peu à se faire une idée. Et entre autres parce que, comme on l'a évoqué, ce qui était utilisé, c'était de la musique. Hein, et ça fait que cette question, elle n'est pas du tout compréhensible par un biologiste. C'est pas que ce soit des gens particulièrement étroits d'esprit, bien au contraire. C'est simplement qu'il n'y a aucune raison dans la nature de penser, comme ça, a priori, que... une information sonore puisse être utile à une plante. Et encore moins de la musique, hein, parce qu'après tout, dans une niche écologique, il n'y a pas de musique. Et ce qui a changé, c'est un papier qui a été proposé par Heidi Apple et Reginald Cockcroft dans l'université du Missouri, où ils ont montré qu'en exposant une plante d'Arabidopsis thaliana, donc Arabidopsis thaliana, c'est une plante qui existe à peu près partout dans toutes les zones tempérées du monde, et puis qui est un petit peu notre souris, nous les biologistes végétaux, c'est notre système d'études favori, et en enregistrant les sons de mastication d'un de ces ravageurs, hein, qui est une chenille, Pieris rapae, et en exposant une plante qui n'avait pas été en contact avec cette chenille au playback sonore, en fait, on était capable de mesurer une production de réponses immunitaires, des anthocyanes et des glucosinolates. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si on change et qu'on expose la plante à une autre stimulation sonore, on n'a pas cette réponse. Et donc là, c'est la première fois qu'on a une preuve tangible que le son pourrait jouer un rôle dans la plante, dans son environnement écologique, et que donc ça pourrait être vraiment une source d'information dans sa vie de tous les jours, et qu'éventuellement ça pourrait être vraiment déterminant pour la plante de percevoir des sons pour son adaptation.
Adelin Barbassi, en effet, à la même époque, on a aussi les travaux de Monica Gagliano qui a montré que les racines se mettaient à pousser en direction des haut-parleurs, où la source sonore souterraine hein, imitait le bruit d'un courant d'eau.
Alors ça c'est vrai. Dans les mêmes années, Monica Gagliano en fait a proposé plusieurs papiers. Je reviendrai sur celui-là, mais ce qui est assez intéressant, c'est que Monica Gagliano c'est une éthologiste, donc une chercheuse qui s'intéresse au comportement des animaux. Et elle arrive avec les mêmes approches et elle s'intéresse aux plantes. Et donc ça a un côté très rafraîchissant, parce qu'elle se pose des questions sur l'apprentissage des plantes, l'apprentissage par renforcement, l'effet du son, comme on pourrait le faire avec les animaux. Et en fait, elle n'a aucun tabou, par rapport à, un peu au tabou qui existe dans la communauté des biologistes végétaux. Et donc, elle propose, entre autres, ce papier-là, et elle montre que quand on fait pousser une plante et que on met à proximité de cette plante une source d'eau, une vraie source d'eau, hein, pas un enregistrement, une source d'eau, les racines poussent dans la direction de cette source d'eau. Par contre, quand elle enregistre la source d'eau et qu'elle utilise un haut-parleur, là, elle observe le contraire. Les racines fuient le haut-parleur. Et donc, c'est un résultat un petit peu difficile à comprendre. Alors, pour cette raison, mais il y a aussi la même année un papier avec Stefano Mancuso qui montre exactement l'inverse. Hein, c'est-à-dire que quand il met un haut-parleur, les racines vont directement vers le haut-parleur. Donc ça demande un petit peu déjà une étude pour les départager. Et puis, quand on change de discipline, comme l'a fait Monica Gagliano, ça a beaucoup d'avantages. Et honnêtement, les questions qu'elle pose, ils ont un énorme mérite. Hein. Ça vraiment, j'ai trouvé que c'était très important. Ça fait du bien de changer de point de vue. Mais il y a aussi des inconvénients. Et entre autres, les protocoles expérimentaux. Chez les plantes, il n'y a pas de problème éthique à travailler sur des plantes. Donc, souvent, c'est commun d'utiliser beaucoup de plantes. Bon, là, il n'y a que 10 racines. Et après, c'est le mécanisme étudié qui est assez spécial, c'est l'hydrotropisme. Hein. Donc, en gros, comment une racine, elle s'oriente en direction de l'eau. Et c'est vraiment... Darwin a travaillé sur le sujet. Et depuis Darwin, en fait, il y avait un peu des controverses permanentes pour savoir si ça existait, oui ou non. C'était un peu difficile à savoir. Et il a fallu envoyer des plantes dans l'espace, enlever un peu de la gravité aux plantes pour pouvoir observer l'hydrotropisme. Et il y a eu des gros progrès qui ont été faits dans les années 2010 et qui ont, juste au moment où Monica Gagliano sort ce papier, et en fait on en sait beaucoup plus sur les bases génétiques hein, de l'hydrotropisme, et ça mériterait d'être repris pour voir si réellement la plante peut percevoir le son de l'eau et orienter ses racines.
Et on reviendra en effet sur les effets sur le système immunitaire de ces sons sur les plantes, notamment dans le cas de ces bruits de mastication de chenilles. En tout cas, tout ça, ça a poussé un renouveau dans le domaine de la bioacoustique végétale. Il y a eu un gros regain d'intérêt sur la question. Mais quelles sont les causes biologiques, les mécanismes à l'origine de ces sons produits par les plantes tomates ou le maïs ou le tabac? Et est-ce que les plantes voisines perçoivent ces sons? On y vient.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, avec Philippe Marmottan et Adeline Barbassi, nous parlons de bioacoustique végétale. Vous écoutez d'ailleurs les notes de David Edren avec son album Music for Mimosa Pudica, qui promet une musique relaxante pour les humains comme pour les plantes. On vient de voir comment ce domaine est devenu un nouveau champ d'étude. Une étude récente qui est parue dans la revue Cell en 2023. L'étude montre que certaines plantes, lorsqu'elles sont privées d'eau, lorsqu'on leur coupe les tiges, lorsqu'elles sont donc en situation de stress, émettent des bruits qui peuvent être entendus jusqu'à 3 mètres, 5 mètres de la plante. Philippe Marmottan, qu'est-ce que c'est que ces bruits?
Alors c'est des bruits particuliers puisqu'on parle d'ultrasons, hein, donc c'est pas des bruits audibles. Il faut des capteurs spéciaux, des capteurs à ultrasons. Donc l'idée intéressante de cette équipe, ça a été de mettre ces capteurs à ultrasons à distance de la plante, alors que dans le passé on les collait directement sur la plante pour maximiser l'écoute. Et donc ils ont mis ces micros à 10 cm, ils peuvent les mettre plus loin, et puis ils ont pu entendre des sons de 60 décibels, donc ce qui est assez important puisque c'est le bruit d'une conversation, mais dans l'ultrasonore, qui était produit par donc la tomate et le tabac dans des conditions particulières. Toujours, c'est au bout de 4 à 6 jours de stress hydrique, donc de sans les arroser, que se produisent le plus les bruits. Et une autre situation qui génère ces bruits, c'est tout simplement de les couper. Et donc c'est un peu une autre façon d'induire de la sécheresse dans une plante, parce que quand on coupe aussi l'arrivée d'eau des racines. Donc ça, c'était assez logique que les plantes coupées et les plantes non arrosées fassent des bruits. Et donc ces mesures, on a pu les observer que sur des plantes qui sont pas lignifiées, donc qui n'ont pas de tronc, qui n'ont pas d'écorce, puisque donc à la fin de l'expérience, donc quand j'ai lu aussi l'article, ils disent à la fin que ils n'ont pas pu observer sur des plantes lignifiées avec une écorce. Et l'interprétation possible, c'est que peut-être l'écorce va atténuer les ultrasons. Alors que dans le cas de la tomate et du tabac, c'est une tige plutôt molle. Et les sons peuvent se propager dans l'air, à une distance plus ou moins importante. Donc ça a fait beaucoup de bruit, parce que là, tout d'un coup, on se disait « Ah bah tiens, il y a un signal émis par la plante pour dire que elle a soif et qu'elle a besoin d'eau ». Alors l'idée n'était pas nouvelle, mais ce qui était intéressant dans l'étude, c'est qu'ils ont entraîné en quelque sorte une un réseau de neurones pour reconnaître les bruits et puis pour détecter dans une serre ambiante, par exemple, quels sont les bruits qui sont liés à une sécheresse de la plante et quels sont les bruits qui sont liés à des insectes, des oiseaux, le vent qui souffle sur la serre, par
et
exemple.
Et puis, ils ont aussi réussi à identifier les bruits qui proviennent du blé, du maïs, du raisin, du cactus. D'ailleurs, ce signal émis par la plante, ces ultrasons qui sont donc inaudibles pour les humains, on peut les entendre, ils sont rendus audibles par opération de sonification, on peut les écouter, d'ailleurs, tendez l'oreille, ça va être très bref. Voilà, c'est comme des micro-sons de pop-corn. Ça, Philippe Marmottan, on a une explication quand même de cette origine biophysique de ces micro-sons, de ces petits bruits de pop-corn qu'on entend là.
Oui, alors nous, notre rapport, donc en tant que physicien, parce que Adelin s'est présenté comme biologiste, donc je vais me présenter comme physicien, donc plus habitué à étudier les vibrations, notamment les petits écoulements dans des canaux. Il se trouve que les plantes contiennent des canaux qui font circuler la sève. Et donc nous, ce qu'on a fait comme expérience, c'était d'observer directement dans le bois. Donc on a une technique qui consiste à enlever un petit bout de bois, à le recouvrir d'une résine transparente. Et comme ça, on peut voir à l'intérieur ce qui se passe. Et donc on a vu qu'en état de sécheresse, eh bien, il y avait effectivement des émissions d'ultrasons, mais on a vu l'origine. Et l'origine, c'était l'apparition de microbulles, ce qu'on appelle bulles de cavitation. Donc ça, c'était vraiment l'origine qui était supposée. Et donc là, on avait une preuve directe, puisqu'on voyait à la caméra l'apparition d'une microbulle et du son en phase avec l'apparition de cette bulle. Donc c'était un peu la démonstration qu'on cherchait à effectuer, que ce sont les bulles qui sont à l'origine de ces sons émis par tous les chercheurs depuis les années 60.
Donc en fait, les sons qu'on entend, ce sont des bulles qui explosent.
Alors elles explosent pas vraiment, mais elles se créent. Donc c'est plutôt la naissance d'une bulle, une naissance un petit peu explosive, un peu rapide, puisque ce qui se passe, c'est que l'eau, quand elle circule dans les arbres, n'est pas dans un état normal et dans un état de tension. Donc ça, c'est quelque chose qui était un peu mystérieux à la base, mais qui était que pour que l'eau monte au sommet de l'arbre, il faut une force. Et cette force, c'est l'évaporation au niveau des feuilles, qui a tendance à tirer l'eau un petit peu comme on tire sur une corde. Donc ça crée une tension dans l'eau. Et cette tension, lorsqu'elle est trop forte, peut faire casser donc la corde si on tire sur une corde. Mais ça peut se passer aussi sur le conduit d'eau. Tout d'un coup, l'eau peut casser et une bulle apparaît brutalement. Et donc ça, c'est le bruit qu'on entend, c'est l'apparition de cette bulle. Et la fréquence qui est générée dépend de la taille de la bulle. Donc ça, on pourra en parler ensuite. Mais donc cette idée que l'eau est sous tension, on peut aussi reformuler en disant que la pression dans le liquide n'est pas positive, mais elle est négative. C'était tellement étonnant que les premiers chercheurs qui ont supposé ça ont dit que c'était une hypothèse, une théorie, qui était la théorie de tension-cohésion, c'est-à-dire que l'eau pouvait être en tension et rester cohésive sans casser. Donc ça, c'est assez incroyable, mais souvent l'eau, quand elle est dans les plantes, est sous pression en dessous de zéro. Donc c'est ça qui tire l'eau vers le haut. Mais cette pression en dessous de zéro est dangereuse, puisque si la pression est trop négative, il y a trop de tension, là peuvent apparaître des bulles, donc les bulles de cavitation, qui font des bruits, mais qui sont aussi dangereuses pour la circulation de la sève, parce que ces bulles vont grandir, et en grandissant, vont bloquer la circulation de la sève. Et donc c'est le début, en fait, d'un risque pour la plante, et donc le risque qui peut aboutir à l'arrêt de la circulation de la sève. Donc ça, c'est un petit peu l'origine de ces bulles. C'est une tension très forte dans l'eau, l'eau qui casse et qui fait apparaître ces bulles de cavitation.
Pour qu'il y ait cavitation possible, vous pouvez aussi dire qu'il faut un xylème, le système de vascularisation de l'eau, Philippe Marmottan.
Oui, alors la grande innovation des plantes, hein, c'est quand elles sont sorties de l'eau, c'était de pas rester au sol, mais d'aller en altitude. Alors pour aller un petit peu au-dessus du sol, il faut conduire l'eau qui vient donc des racines vers les feuilles. Donc il y a l'apparition de tissus conducteurs d'eau, donc qu'on appelle aussi sève brute. Le nom scientifique, c'est le xylème. Donc c'est ce tissu de xylème va amener l'eau des racines jusqu'aux feuilles au travers de petits canaux qui sont plus fins qu'un cheveu. Donc la taille typique des canaux, c'est 50 micromètres. Donc si on n'est pas habitué à la taille du micromètre, il faut savoir qu'un cheveu, c'est aux environs de 100 micromètres. Donc l'eau circule dans des canaux qui sont plus petits que la taille d'un cheveu. Et il y en a plein dans un arbre. Donc quand vous coupez un arbre, il y a une partie blanche qu'on appelle l'aubier. Et en fait, c'est ce tissu de xylème qu'on voit. et qui achemine l'eau donc directement des racines vers les feuilles, en passant par ces petits canaux qui sont munis. Alors là, moi, quand j'ai découvert ça, j'étais vraiment estomaqué. C'est que entre ces canaux, il y a des protections, des petites valves qui sont là pour empêcher la propagation de l'air. Donc, si jamais il y a une fuite, en gros, et que l'air envahit le réseau, ces valves peuvent se fermer et isoler en fait une partie de l'arbre, l'empêcher de sécher, tout en protégeant le reste de l'arbre, donc de l'invasion d'air.
On va continuer à comprendre en quoi consiste la cavitation avec le reportage du jour et avec vous, Céline Lozen. Bonjour.
Bonjour, Natacha.
Pour ça, vous avez rencontré des physiciens au laboratoire matière et systèmes complexes de l'Université Paris-Cité qui étudient justement ce mécanisme hydrodynamique.
Oui, en effet, Valentin Leroy et Adrien Buissonnière étudient ce mécanisme pour comprendre bien comment les micro ou nanobulles se forment, notamment au niveau des aspérités d'une paroi. Dans leurs expériences, ils utilisent un aquarium où on immerge une plaque en verre et où on vient focaliser laser et ondes acoustiques pour former de telles bulles. Une manière de modéliser ce phénomène encore énigmatique qui se déroule au sein des xylèmes de plantes.
Donc là, je vais représenter une paroi. Donc on peut imaginer que c'est la paroi de notre verre. Et il va y avoir un défaut. Donc là, je dessine un cône. Et donc, quand le liquide passe au-dessus de ce cône, qui est un trou dans notre surface, il passe dessus et finalement, au bout d'un moment, voilà. Donc on a piégé une petite bulle à l'intérieur, ici.
Au fond du cône.
Au fond du cône, oui. Et donc, du coup, on a du liquide qui est tout en haut et on a une petite bulle qui est piégée dans ce petit trou. Et donc, quand on va venir diminuer la pression, ce qui va se passer, c'est que l'interface entre l'eau et l'air, eh bien, va commencer à se déformer. Donc quand on diminue la pression dans l'eau, la bulle va avoir tendance à gonfler. Et donc elle va gonfler dans un premier temps de manière plutôt stable, jusqu'à atteindre, on va dire, un rayon de courbure, donc c'est-à-dire une sorte de rayon de bulle, pour laquelle finalement le petit trou ne peut plus s'accommoder avec la bulle, et d'un seul coup, là on parle de perte d'équilibre mécanique, eh bien, d'un seul coup, il n'y a plus d'équilibre et la bulle explose très rapidement, enfin grossit très rapidement. Et dans ce cas-là, finalement, cette croissance, elle est accompagnée par une évaporation du liquide. Et donc, cette croissance très rapide peut se faire des fois à des vitesses qui sont supérieures à la vitesse du son dans le liquide. Et donc, c'est ça qui émet des ondes acoustiques dans l'environnement, en fait.
Donc, ce que vous a dit Adrien, c'est que quand on a une dépression donc très forte, qu'on cherche à tirer sur l'eau et sur un défaut, ça peut faire un phénomène de cavitation. Et une autre façon de faire de la cavitation, celle qu'on utilise nous, c'est les ultrasons, l'acoustique. C'est-à-dire que quand on envoie une onde acoustique de grande amplitude, donc une onde acoustique c'est des pressions, surpression, dépression, mais si l'amplitude est grande, la dépression peut passer en dessous de zéro et venir tirer sur le liquide pour ouvrir l'eau et avoir une bulle de cavitation.
Donc finalement, on a un aquarium dans lequel on a un élément qui est l'élément central qui va venir vraiment exciter les bulles de cavitation. Donc c'est un élément qui a une forme sphérique. Et donc cette forme sphérique, c'est ce qu'on appelle le matériau piézoélectrique. Et donc quand on va lui appliquer une tension, il va se contracter ou se dilater et donc il va émettre des ondes acoustiques. Et donc il a une forme sphérique, c'est pour forcer la convergence des faisceaux acoustiques qui sont générés à sa surface en un point qui, là, se situe à peu près à 5-6 cm. Et donc, on va générer cette onde sur cette surface sphérique qui va se propager et venir se focaliser, pas exactement en un point, mais dans une zone très restreinte. Et donc, on va pouvoir appliquer des pressions, des surpressions et des dépressions importantes créer de la cavitation. Et donc, en ce point où la pression fluctue beaucoup, on a placé une plaque de verre. Et donc, l'idée, ça va être d'appliquer des pressions et de venir faire sortir les petites bulles de leur trou.
Alors, je dois regarder où
exactement ? C'est par là.
Ah oui, il y a le laser.
Voilà. Donc, il y a un faisceau laser qui passe. Et donc, en fait, le laser passe exactement au point où les ondes acoustiques sont focalisées et où on va venir sonder. Y a-t-il une bulle qui apparaît ou pas ? Donc là, je vais envoyer une onde qui n'est pas très forte, hein. Donc pour avoir un peu un état de base, donc en vert ici, ce que vous voyez, c'est le signal détecté par la photodiode, donc qui a un certain niveau. Et donc là, on voit finalement l'onde réfléchie par la plaque. La fluctuation de pression, change un peu le parcours de la lumière quand même, parce qu'on vient faire fluctuer la pression et donc faire fluctuer l'indice optique du milieu. Et donc finalement, on vient faire un peu osciller la lumière détectée par la photodiode. Et donc si maintenant, j'impose une amplitude beaucoup plus forte, donc je vais changer un peu la position. Hop. Donc ce qu'on peut voir sur les signaux là maintenant, c'est que la lumière détectée par la photodiode fluctue beaucoup plus. Et au bout d'un moment, quand la bulle apparaît, ben finalement, la lumière détectée diminue fortement. Et ça, c'est simplement dû au fait que la bulle a fait un écran à la lumière. Et donc, du coup, finalement, on voit moins de lumière. Et donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que ce signal de lumière diminue et après repasse et revient à peu près au niveau auquel il était. Et en gros, c'est la bulle croît et finalement implose. Donc là, je réémerge la plaque. On va voir si ça va marcher. Attention, c'est parti.
Ouh, un petit bruit métallique.
Oui, un petit clic.
Donc c'est le petit clic. Et en fait, si on regarde un peu en termes de temps ici, on est de l'ordre de 50 microsecondes, donc 20 kHz. Mais on entend un petit peu. Et en fait, la majorité du signal est en fait dans l'inaudible. Et donc quand on utilise des hydrophones ou des choses comme ça, on a un signal qui est beaucoup plus riche que ce que détecte notre oreille.
Finalement, est-ce qu'on pourrait considérer ce système comme un modèle potentiel de cavitation qui peut se dérouler au sein d'une plante dans ce qu'on appelle le xylème ?
Alors le phénomène à la base est quand même assez similaire dans le sens où quand l'eau s'évapore, les canaux qui sont à l'intérieur, donc il y a de moins en moins d'eau, donc l'eau est mise sous tension. Après, je ne suis pas spécialiste vraiment de savoir si les petits défauts qui seraient piégés dans les canaux nucléer également. Je ne sais pas si c'est vraiment seulement lié à la géométrie des canaux des plantes ou si c'est également lié à la présence d'impuretés dans ces canaux qui pourraient aussi générer des bulles sous contrainte hydrique. Quoi.
Donc là, l'expérience qu'Adrien vous a montrée, c'est sur une plaque de verre. Mais ce qu'on aimerait bien faire, c'est pouvoir avoir des défauts mieux contrôlés. Parce que là, du coup, c'est les défauts qui existent sur le verre. Mais dans la cavitation hétérogène, il y a toute une théorie sur les crevasses et leur forme. Quel est l'angle d'ouverture des crevasses, et en fonction de cet angle, on attend de la cavitation ou pas. Et du coup, on aimerait bien créer des défauts bien contrôlés. La démarche en physique, souvent, c'est de travailler sur quelque chose le plus contrôlé possible pour bien connaître tous les paramètres et voir si on arrive à mettre en équation exactement ce qui se passe. Donc on aime bien faire des manips où, un petit peu obsessionnellement, on essaye de tout contrôler pour être sûr de bien comprendre ce qui se passe. Donc il va falloir prendre une plaque parfaite et venir faire une petite crevasse dedans et plonger dans ce système-là et voir le temps de réapparition du nucléus de cavitation.
Merci Céline Lausanne pour votre reportage. Philippe Marmottan, donc, voilà, ce qui génère le son, c'est l'apparition des bulles, de ces bulles de cavitation, et c'est en partie donc la taille d'une bulle qui va lui donner sa fréquence.
Oui, alors il y a même une formule qui va permet de prédire quelle est la fréquence du son en fonction de la taille de la bulle. Donc c'est un monsieur belge, monsieur Minaert, qui a donné cette formule, qui est assez simple, qui dit que la fréquence va être de plus en plus haute quand la taille de la bulle diminue. Et donc si je dois donner une seule équation, parce que nous les physiciens on aime bien les équations, mais celle-là elle est simple, je vais la donner. Donc la fréquence c'est 3 divisé par le rayon de la bulle, où le rayon de la bulle est en mètres. Et donc on peut prédire comme ça la fréquence de vibration d'une bulle.
Mais il y a une analogie aussi parlante pour comprendre ce qui détermine la fréquence du son, c'est l'analogie de la pluie.
Ah oui, donc effectivement, on entend le son des bulles dans la vie courante. Donc ça, c'était justement Monsieur Minaert qui l'a vraiment expliqué dans son article. C'est que les sons de glou-glou, les ploufs, les plics et les plocs des gouttes de pluie sont en fait les sons des bulles. Des bulles qui sont générées, par exemple, lorsqu'une goutte de pluie tombe sur une flaque. Et bien ça crée un petit cratère dans l'eau et ce cratère va se refermer et emprisonner une petite bulle. Et c'est cette petite bulle qu'on va entendre, c'est pas vraiment l'impact, puisque la petite bulle se produit après l'impact. Et donc ça c'est un son qu'on a un peu l'habitude d'entendre, qui fait que donc les grosses bulles sont plutôt graves. Donc j'ai dit plouf, c'est plus quand on lance un caillou dans l'eau, alors qu'une goutte de pluie ça plus se plique, parce qu'elle est plus petite comparée au caillou dans l'eau. Donc ça, c'est la principale formule que je voulais donner dans cette émission, la formule de Minaert, qui permet donc de prédire exactement quelle est la taille aussi de la bulle. Quand on entend la fréquence, on peut remonter en quelque sorte, juste en écoutant, on peut remonter à la taille de la bulle. Donc ça, c'est très intéressant pour détecter pour mesurer un diamètre de bulle juste en écoutant cette fréquence.
Toujours sur la fréquence du son, Philippe Marmottan, c'est une fréquence donc qui résulte, ce son qui résulte d'une tomate, d'un maïs, ça dépend donc de la taille de la bulle, mais ça dépend aussi de la taille de ces fameux canaux de xylème dans lesquels les bulles se forment.
Oui, alors les bulles de cavitation ou les bulles tout court peuvent se former dans des liquides. Donc s'il y a de la place, on utilise la formule de Minnertz qui marche très bien. Donc ça, c'est dans un grand bain d'eau. Dans le xylème, c'est beaucoup plus chargé. Donc on est dans des petits conduits qui font 50 micromètres, par exemple. Donc c'est vraiment plus petit. Et il se trouve que là, les bulles qui sont créées sont aussi petites. Donc c'est ça qui explique d'ailleurs qu'elles sont dans les ultrasons, c'est qu'elles sont tellement petites que leur fréquence de vibration naturelle, c'est dans les ultrasons. Et donc nous, ce qu'on a montré, c'est que la vibration dépend aussi un petit peu de ce qu'il y a autour. Donc s'il y a des murs autour, ça va quand même affecter la fréquence de vibration, qui va tendance à être même encore plus élevée. Donc qui va aller dans le sens de sons d'encore plus haute fréquence. Et donc typiquement, les fréquences qu'on a entendues, nous, en visualisant ce qui se passait dans le bois, c'était de l'ordre du mégahertz. Donc le mégahertz, c'est quelque chose qui est utilisé pour les fréquences radio, mais c'est aussi utilisé dans le domaine sonore. Donc c'est 1 million de vibrations, de cycles de vibrations par seconde. Donc ce sont des ultrasons très très haute fréquence qui sont générés comme ça dans le xylème des arbres. Donc c'était un peu nouveau cette découverte de la cavitation et des bulles de cavitation dans le xylème, parce qu'on s'attendait pas trop à les trouver là. On les voyait plutôt, par exemple, dans le reportage, on parlait d'ondes acoustiques focalisées, donc on les entend plutôt dans les bains ultrasonores. Donc c'est une machine qui permet de nettoyer des outils en générant des ultrasons de très forte puissance. Donc c'était un endroit où on entendait la cavitation. Il y avait aussi la cavitation hydrodynamique. Donc lorsque l'eau coule très rapidement, par exemple autour des hélices d'un navire, la pression peut baisser, devenir négative et créer des bulles de cavitation dans le sillage des hélices des navires. Mais donc on s'attendait pas à le trouver dans les arbres. Et donc la première surprise, c'était que la pression était très négative aussi, de manière continue. Alors que dans le cas des hélices des navires, c'est assez... c'est un petit temps, alors que là, dans le cas de l'arbre, la pression peut rester négative pendant des heures et tirer donc l'eau vers le sommet de l'arbre, mais avec un risque. Donc c'est un petit peu l'épée de Damoclès, c'est que si la pression est trop négative, ces bulles apparaissent.
Voilà comment se produisent ces sons, ces ultrasons à l'intérieur des plantes. Alors comment les plantes peuvent-elles percevoir le son? Pour le moment, nous n'avons pas de réponse à cette question, mais il s'est donc développé un marché, un fonds de commerce en fondement scientifique, le disque pour plantes vertes. On écoute là l'album Plantasia de Mort Garson, inspiré par le best-seller donc La vie secrète des plantes. En 76, le disque est distribué dans la jardinerie Mother Earth. C'est un album qui ne s'adresse qu'aux plantes. Mort Garson, Plantasia en direct sur France Culture, car nous parlons de bioacoustique végétale en compagnie de nos deux invités du jour. Philippe Marmottan, directeur de recherche CNRS au laboratoire interdisciplinaire de physique de l'université Grenoble-Alpes, et Adelin Barbassi, biomécanicien spécialiste de l'immunité des plantes au laboratoire des interactions plantes-microbes-environnement de Toulouse. Est-il envisageable qu'il puisse exister une communication végétale? Pour communiquer, il faut pouvoir émettre et recevoir des sons. On vient de voir que oui, c'est possible pour les plantes qui n'ont pas d'écorce, elles peuvent émettre des sons, mais comment peuvent-elles les percevoir?
Les plantes sont capables de percevoir les sons. Moi, j'ai bien aimé la façon dont Stefano Mancuso a présenté ça. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est posé la question de se dire pourquoi un organisme vivant, à l'heure actuelle, se priverait d'informations qui lui viennent de l'environnement. Je trouve que c'est une très belle approche parce qu'en fait, les plantes, pour nous, ça n'a pas d'oreille, ça n'entend pas. Mm-hmm. Mais en fait, si on se pose la question comme ça, effectivement, elle est pertinente. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait écouter l'enregistrement d'une rivière à des plantes. Et ce qu'il a pu observer, c'est que les racines qui d'habitude poussent en sentant la gravité donc vers le sol, eh bien, lorsqu'on leur rajoutait une source sonore, donc un bruit d'une rivière en l'occurrence, eh bien, elles s'orientaient vers le bruit de cette rivière. Donc c'est très étonnant, c'est un phonotropisme donc, qui a pu être maintenant étayé par d'autres équipes et d'autres expérimentations. Il y a une belle étude qui a été publiée sur les fleurs qui seraient capables de percevoir le son d'une abeille qui arrive. Donc en fait, elles seraient capables de faire les fréquences du vol. Elles se mettraient à synthétiser le sucre dans le nectar à ce moment-là uniquement. Et là, ça a un intérêt pour la plante d'un point de vue énergétique. Donc on comprend bien l'intérêt là de percevoir des signaux sonores.
Voilà un extrait de l'émission Les Aventuriers, l'écophysiologiste François Bouteau, micro de la regrettée Fabienne Chauvière en 2020 sur France Inter. Adeline Barbassi, voilà, on écoutait des exemples que vous nous aviez vous aussi cités. Les plantes communiquent-elles entre elles? On n'en a pas la moindre idée.
Alors, en tout cas, si, les plantes communiquent entre elles. Par contre, est-ce que ça se fait au moyen d'ondes acoustiques, de sons? Alors là, on n'en a pas la moindre idée, c'est vrai. Mais c'est quand même beaucoup regardé, hein, les communications entre plantes. C'est un champ très très important qui est beaucoup regardé en ce moment parce que c'est évidemment de toute première importance en agriculture par exemple. Alors pour en revenir un peu au son, eh ben c'est qu'on n'a pas du tout la moindre idée de comment ça pourrait les plantes pourraient percevoir. L'explication qui est relayée par François Bouteau et qui est au départ donnée par Mancuso et marche pas vraiment. C'est pas parce que il y a un besoin que forcément il y a une façon d'y répondre. Et donc là, on est vraiment en train de chercher des mécanismes physiologiques qui permettraient aux plantes de percevoir les sons. Alors il y a des pistes qui ont été proposées quand même. Alors la principale, c'est les trichomes. Alors les trichomes, c'est des petits poils qui sont à la surface des feuilles et puis des tiges, et trichomes parce que simplement ce petit poil est fini par trois petits autres poils. Et alors, c'est des petites structures qui sont millimétriques, hein, ça se voit à l'œil nu. Et ce qui est proposé, c'est qu'en fait, à cause des propriétés mécaniques de ces trichomes, pour certaines fréquences sonores, il y aurait un échange d'énergie qui serait favorisé. Et ça serait dans des fréquences autour de 6 MHz, donc des sons plutôt aigus. Et ces sons aigus, en fait, exciteraient le trichome et le mettraient en vibration. Et alors, comme le trichome, évidemment, il est accroché aux cellules voisines, et ça créerait des tensions dans les tissus qui seraient potentiellement perçues. Alors, c'est une explication assez satisfaisante d'un point de vue physique, mais pour l'instant, c'est pas une vraie démonstration, puisque ça a été proposé sur la base d'un modèle physique, donc il n'y a pas de validation expérimentale. Et puis que, d'un point de vue biologie, hein, toutes les plantes n'ont pas forcément de trichomes ou beaucoup de trichomes, des tailles très différentes, ce qui influencerait vraiment beaucoup les fréquences qu'elles pourraient percevoir. Donc en fait, si ce mécanisme devait être impliqué, ça permettrait aussi peut-être des spécificités de réception. Et le dernier inconvénient, c'est que le trichome, c'est quelque chose de très plastique. En fonction de l'environnement dans lequel pousse la plante, il y a plus ou moins de trichome. Donc ça serait quand même un élément, si ça devait être vital, la communication et la perception par les trichomes, ça serait quand même un élément un peu faible. Mais ça n'empêche que c'est quand même très intéressant. Et alors, par rapport aux fréquences dont parlait Philippe, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être impliqué.
L'hypothèse à la mode en ce moment, parce qu'en effet, là, vous nous présentez très bien les trichomes qui fonctionneraient comme des antennes acoustiques, l'hypothèse à la mode en ce moment, c'est celle des canaux ioniques.
Alors les canaux ioniques, c'est la façon... ça peut être complémentaire aux trichomes. Donc les canaux ioniques, on peut imaginer que c'est des portes qui sont dans les membranes des cellules végétales, et puis naturellement, elles sont fermées. Et quand on augmente la tension dans la membrane... Mais ça, si la tension est suffisante, ça ouvre ces petites portes et ça laisse passer des ions, et ce qui déclenche la signalisation. Alors, on connaît quelques canaux ioniques, et entre autres des canaux impliqués dans la mécanoperception. Et alors, il y a des petits problèmes d'ordre de grandeur. C'est-à-dire que, en gros, un son à 100 décibels, c'est très fort pour nous, hein, mais c'est 1 pascal. Donc, en gros, c'est 1 cent millième de fois la pression atmosphérique, donc c'est tout petit. Et le canal... mécanosensible qui s'ouvre en premier, il lui faut 100 fois plus de tension. Donc on se demande comment il peut s'ouvrir. La deuxième partie, c'est qu'un son, c'est pas qu'une intensité, une amplitude, hein, c'est aussi une fréquence. Et on sait que pour l'instant, le canal qu'on connaît le mieux sur sa réponse fréquentielle, c'est un canal qui s'appelle MSL10 et qui s'ouvre à 10 Hz, donc beaucoup moins vite qu'une onde sonore, et qui du coup est plutôt un canal qui sera impliqué dans la perception du vent, qui lui déclenche des oscillations aux alentours de 10 Hz. Et donc on a du mal en fait avec ce qu'on connaît des canaux à se dire oui c'est des bons candidats pour la perception des ondes sonores. Par contre, et le par contre il est important, c'est qu'on n'a pas identifié tous les canaux mécanosensibles. C'est une recherche en cours et donc on peut très, enfin il y a beaucoup d'inconnus dans cette histoire. Et donc ceux qu'on connaît, a priori, c'est pas les bons candidats. Alors peut-être qu'il y en a qu'on connaît pas.
Il y a une troisième. Pardon, excusez-moi, je voulais pas vous interrompre. Je pensais qu'on allait faire, parce qu'on a une autre hypothèse, hein, comme vous dites, tout ça n'a pas été démontré expérimentalement validé. On ne sait toujours pas où est entre guillemets l'oreille des plantes, mais on n'a pas encore parlé des microtubules qui seraient peut-être le secret de l'ouïe entre guillemets des plantes.
Oui. Alors, il y a d'autres, comment dire, l'hypothèse principale, c'est que c'est perçu comme des signaux mécaniques et pour le coup, le cytosquelette, dont les microtubules, hein, des cellules, peut participer à la mécanoperception. Donc ça peut être des, enfin, ça peut être des candidats. Après, ben les microtubules, c'est des choses qui, enfin bon, ça se réorganise, mais ça se réorganise lentement. Donc est-ce que sur des sons brefs, on peut espérer que c'est un bon candidat, ça reste à observer. C'est des expériences très difficiles à faire parce que, en fait, faut être capable de regarder la dynamique de repolymérisation des microtubules, ce qui prend du temps et ce qui peut pas tellement se faire en même temps qu'on expose une plante à du son. Donc c'est un peu difficile à vérifier. Mais c'est peut-être une façon de dire aussi que on peut imaginer d'autres récepteurs impliqués qui sont encore inconnus, qui n'ont pas été forcément mis en avant pour le moment. Et ça titille vraiment parce que là, on est, si vous voulez, dans les ordres de grandeur, on est au-delà de tout ce qu'on connaît. On sait que les plantes, c'est des êtres très sensibles, qui ont une grande finesse à la diversité des signaux qu'elles peuvent percevoir. Mais là, dans les intensités, on est aussi très faible et on n'a jamais encore abordé le problème de front.
Vous dites justement que c'est pas facile d'observer tout ça, Adeline Barbassi. Qu'est-ce que vous observez exactement, justement, pour tenter de répondre à cette question?
Alors, sur la question de comment les plantes perçoivent le son,
oui,
eh ben, on est très embêté sur ce qu'on peut observer. Donc, on fait avec ce qu'on peut. Et alors, mon avis, on a parlé du xylème tout à l'heure, enfin, la cavitation, c'est un superbe exemple de recherche interdisciplinaire. Et donc, du coup, moi, mon avis, c'est que pour comprendre ça, on ne peut pas le regarder en tant que biologiste ou que en tant que physicien. Il faut créer une approche interdisciplinaire. Donc pour ça, nous, on travaille depuis quelques années avec nos collègues physiciens du laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans. Et donc avec eux, ce qu'on est capable de faire, c'est de regarder, de mesurer ce qui se passe quand on met une plante, quand on la soumet au son. Et donc on mesure avec un laser très précis les déplacements que ça induit. Alors les déplacements que ça induit, on parle de centaines de nanomètres, hein. Donc un cent millième de fois, un millième pardon de fois une feuille de papier, donc c'est vraiment vraiment tout petit. Et ce déplacement, il forme des vagues. On peut imaginer comme quand on jette un caillou dans de l'eau, à part que c'est des beaucoup moins réguliers. Mais ces petites vagues, en fait, comme il y a des cellules dans ces vagues, et ces cellules, elles sont déformées. Et donc il y a des plis et puis des parties non pliées. Et donc ça, on est capable de l'observer de plusieurs manières différentes et d'identifier où sont ces plis. La question après, c'est d'aller regarder si la cellule répond, les cellules qui sont dans ces plis répondent. Et alors là, c'est là que ça se complique. Donc on n'a pas pour l'instant une méthode très directe pour faire ça. On a fait de la transcriptomique, donc on a regardé l'expression des gènes. Et si on regarde dans toute la feuille, bon, en fait, on comprend pas grand-chose parce qu'on a une sorte de moyenne. Donc en fait, on a été amené à regarder noyau par noyau les gènes qui étaient exprimés par les cellules, en espérant trouver une proportion de cellules qui expriment les gènes de mécano-perception similaire à la proportion en fait de surface de feuille pliée. Et bon voilà, alors on en est là. C'est un grand raccourci, mais développer des méthodes expérimentales, ça a demandé quand même presque 6 mois de travail à toute une équipe, hein, très talentueuse. Et donc, on en est là. Donc, a priori, ça peut être c'est la piste qu'on suit. Maintenant, même si cette piste, pardon, si cette piste devait s'avérer vraie, il manquerait un observable. Et ça, c'est des méthodes qu'on est en train de créer pour pouvoir observer qu'en effet, il y a la mécanoperception, potentiellement, dans ces zones pliées.
Voilà, c'est comment on peut passer d'une variation de pression dans l'air à la modification de l'expression d'un gène d'une plante. L'histoire est à écrire. Philippe Marmottan, je voulais aussi vous poser la question de la sensibilité des plantes au silence, parce qu'on a des observations. Le biologiste Jean-Marie Pell, qui dans les années 80-90 a observé que lorsqu'un animal entre dans une forêt, les oiseaux se taisent, les arbres semblent entendre ce silence brusque, car il a été observé que certains acacias se sont mis à produire des composés chimiques toxiques pour les animaux au niveau de leurs feuilles. Votre regard sur ces observations-là, Philippe Marmottan ?
Alors moi je suis pas biologiste aussi, mais je constate effectivement que les plantes sont très sensibles, donc notamment au niveau de l'ouïe. Même on a découvert récemment, c'était le dernier prix Ig Nobel de botanique, que certaines vignes pouvaient imiter la forme des feuilles d'une autre plante, donc comme si elles avaient une vision. Donc moi je constate que les plantes sont, ne pouvant pas bouger, se déplacer, sont obligées de s'adapter. Et donc il y a forcément toute une gamme de capteurs qui est développée pour être plus sensible. Donc moi, j'ai remarqué quand même qu'il y a quand même quelques exemples très étonnants dans le monde acoustique végétal. Donc effectivement, le silence n'est pas forcément un non-signal, puisqu'on peut en déduire quelque chose. Mais dans certains cas, il y a quand même des exemples de communication entre les animaux et les plantes. Alors c'est un peu particulier, donc je voulais parler de ça, donc de ces chauves-souris qui peuvent être dirigées vers le fruit ou vers une plante en particulier. Il se trouve qu'il y a deux exemples dans le monde. Donc il y a le premier exemple, c'est une vigne qui a Cuba, qui produit une forme creuse, une feuille en forme creuse, un petit peu comme un bol. Et ce bol va réfléchir les ultrasons émis par les chauves-souris. Donc ça va faire un écho assez constant, même lorsque la chauve-souris se déplace. Et du coup, la chauve-souris va être attirée par ce réflecteur et donc va être attirée par les fruits de cette plante. Donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est une plante carnivore, Nepenthes. Pour les amateurs de plantes carnivores, ils reconnaîtront ce que c'est que la Nepenthes. C'est une espèce de tube qui est rempli de suc digestif et qui donc attire ses proies. Mais cette plante a développé une feuille un peu spéciale aussi qui va réfléchir les ultrasons et va attirer les chauves-souris pour qu'elles utilisent cette plante comme perchoir. Et en étant perchées sur ces plantes, elles vont émettre leur défécation, ce qui va faire de l'engrais pour la plante carnivore. Donc là, pour moi, il y a vraiment un exemple de communication qui utilise l'acoustique entre les plantes et les animaux. Et effectivement, il y a encore plein de choses à découvrir.
En tout cas, merci pour ces beaux exemples de communication acoustique entre animaux et végétaux. Merci à vous deux. Pour prolonger l'écoute, j'invite nos auditeurs à podcaster l'épisode Quand les synthétiseurs font pousser les plantes, la musique électronique face au règne végétal. C'est une excellente série documentaire d'Étienne Menu sur France Culture. Et tout de suite, la chronique avec science. Cette semaine, Alexandra Delbo fait le point sur les prix Nobel 2024.
Le prix Nobel de médecine et physiologie 2024 récompense la découverte des micro-ARN. L'Institut Karolinska en Suède a décerné hier son prix à Victor Ambros et Gary Röfkun. Et c'est la deuxième année consécutive que les ARN sont mises à l'honneur. En 2023, il s'agissait de récompenser la contribution de Kathleen Carrico et Drew Weissman pour les vaccins à ARN messagers. Cette fois, il n'est pas question directement de thérapeutique, mais de régulation de ces ARN messagers. Et pour comprendre le rôle des micro-ARN sur les longs ARN, il faut revenir à la base et au triptyque ADN, ARN et protéines. Jean-Philippe Combier est directeur de recherche CNRS dans l'équipe peptides et petits ARN du laboratoire de recherche en sciences végétales de l'université Paul Sabatier à Toulouse. Il est cofondateur et conseiller scientifique de MicroPep Technologies.
Le code génétique est constitué d'ADN, acide désoxyribonucléique. Cet ADN qui contient les gènes va être transcrit pour former de l'ARN, et c'est ces ARN qui vont être traduits pour former des protéines. Et les protéines sont les acteurs moléculaires de la majorité des processus cellulaires et biologiques. Et en fait, les micro-ARN sont une classe particulière d'ARN. Ce ne sont pas des ARN messagers qui vont donner des protéines, ce sont des petits ARN qui, en fait, vont conduire à réguler la quantité de protéines de leur cible. Et en fait, les micro-ARN, il y en a entre 300 chez des plantes assez basiques et jusqu'à 2000 à peu près chez l'humain. les micro-ARN vont cibler des gènes clés de différents processus. Le plus souvent, c'est des gènes vraiment très très importants pour les processus biologiques qui interviennent notamment dans le développement et dans la réponse au stress. Et un organisme qui ne produit pas de micro-ARN n'est pas viable. C'est-à-dire que les micro-ARN sont absolument indispensables à la vie des plantes et des animaux. Quand je parle d'animaux, je parle notamment d'humains.
Les micro-ARN sont essentiels à la vie chez les animaux. Quand ces petits bouts d'ARN se collent à un ARN messager, cela l'envoie généralement directement à la poubelle. Chez les plantes, c'est un petit peu différent. Ces mires, comme on les surnomme aussi, agissent comme des ciseaux et coupent les ARN. Mais l'objectif reste le même, détruire spécifiquement certains ARN messagers et donc décider s'il y aura plus ou moins d'effecteurs dans une cellule à un moment précis. C'est ce qu'on appelle une régulation post-transcriptionnelle. Les travaux de ces deux scientifiques américains ont d'abord porté sur la découverte chez un organisme modèle en biologie, un ver nématode, de petits ARN d'une vingtaine de nucléotides qui ne codent pas pour des protéines. Ce sont ces fameux micro-ARN. En 1993, Victor Ambros et Gary Rovkun décrivent tout le processus biologique, qui sont les acteurs moléculaires qui interviennent dans cette régulation et dans quel ordre ils agissent. Mais le tour de force a été ensuite de comprendre que les micro-ARN sont conservés dans le vivant et qu'ils sont présents chez toutes les espèces animales et végétales. Depuis, nombre d'entre eux ont été découverts. On les appelle par leur numéro, MIR-132 ou MIR-145 par exemple. L'enjeu à présent, c'est de comprendre à quoi sert chacun d'entre eux et quelles sont leurs cibles. Mais il faut le noter, ce ne sont pas les seuls scientifiques à avoir fait cette découverte.
Je dirais que c'est une juste reconnaissance de leur travail. Ils n'ont pas été les seuls. Il a peut-être fallu faire un choix. C'est vrai que... En gros, il y a trois équipes qui ont identifié les micro-ARN en même temps. Seules ces deux personnes sont récompensées. C'est très bien pour elles, mais c'est peut-être dommage pour les autres. Mais c'est un bon point pour la recherche. La communauté travaille sur la définition de cibles, parce qu'autant chez les plantes, il est assez facile de définir des cibles, autant chez l'humain, on ne sait pas. On estime que les micro-ARN contrôlent environ 50% du génome. Donc 50% de l'ensemble des protéines vont être contrôlées par des micro-ARN, ce qui est faramineux. Dans la plupart des processus biologiques, il y a intervention de micro-ARN. On l'a pas forcément identifié pour tous les processus encore, mais on peut estimer qu'ils sont impliqués de partout. Chez les plantes, par exemple, il y a 300 micro-ARN chez Arabidopsis thaliana, qui est une modèle de plante. On connaît le rôle d'environ une centaine maximum. Donc, c'est très peu connu. Et chez les animaux, il y a presque tout à découvrir encore. Parce que sur 2000, on est loin de comprendre exactement leur rôle et leur implication.
Il reste encore donc beaucoup à découvrir. Et si les micro-ARN jouent un rôle dans tous les processus biologiques, c'est qu'il existe des applications. En agronomie, en pulvérisant des micropeptides régulateurs de ces micro-ARN, des régulateurs de régulateurs finalement, on peut limiter la croissance des espèces invasives ou augmenter la réaction de défense des plantes. Et bien sûr, en médecine humaine et en pharmacologie, on sait que les micro-ARN sont dérégulés dans le cancer et dans d'autres pathologies. En cardiologie, un inhibiteur du MIR-130 est en cours de développement pour restaurer la fonction cardiaque après un infarctus. Dernier exemple, il pourrait également servir de biomarqueur, notamment dans l'endométriose. La HAS, la Haute Autorité de Santé, a récemment donné un avis favorable à un test de dépistage salivaire basé sur ces petits ARN.
Merci Alexandra pour votre chronique et à demain pour la suite des Nobel. Et merci à vous pour votre écoute et merci à toute l'équipe sans qui cette émission ne serait pas grand-chose. Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Alexandre Morales, Ali Ruyère-Thompson. À la réalisation, Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Alex Dang. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.